Nous allons lire d'abord quelques passages dans l'épître de Pierre, la première épître. On avait lu quelque chose hier matin, que même si on n'a pas vu le Seigneur, nous l'aimons et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Puis, il est dit ceci, verset 10 du chapitre 1er. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voyez-vous, mes amis, les anges sont intéressés à ce merveilleux salut que le Fils unique, leur Créateur comme notre Créateur, a voulu accomplir pour que nous soyons totalement sauvés. Pas seulement qu'on puisse dire « je suis un sauvé », mais que notre vie soit réellement celle d'un homme ou d'une femme rachetée à grand prix et qui se souvient que le prix qui a été payé par son Sauveur, c'est la vie qu'il a donnée. Alors qu'il prenait sur lui tous nos péchés, pour que nous ne traînions plus toute notre existence ce boulet, pour que nous n'ayons plus cette mauvaise conscience au sujet de tout ce que nous avons pu faire, ou au sujet de tout ce que nous découvrons encore en nous, comme méchanceté naturelle. Il ne faut pas vous étonner que depuis votre conversion, vous ne vous soyez pas amélioré. Quand vous vous regardez vous-même, vous ne devez pas penser, eh bien voilà, depuis ma conversion, j'ai quand même mieux qu'avant. Au contraire, plus on avance, plus on se voit noir, et plus on dit, « Oh Seigneur, comme j'avais besoin de toi, comme j'avais besoin d'un sauveur. » Et vous donnez raison à l'Écriture qui dit que l'homme est incurable, désespérément malin, qu'il connaît moi l'Éternel. Je le connais. Ce n'est pas le psychiatre qui connaît le cœur, même s'il se fait tout raconter. C'est Dieu. Parce que la plupart du temps, on ne raconte pas tout. Il y a quelqu'un en bas? Comment? Ah, c'est Gérard, oui. Donc, vous vous souviendrez de ce passage. Puis maintenant, on va lire encore dans l'Épître aux Hébreux. On a déjà lu le premier chapitre qui nous parle de ce que sont les anges, en finale, au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, parce que nous sommes sauvés en espérance. Et le salut complet, le salut total, nous ne l'aurons qu'au moment où le Christ reviendra, parce qu'alors, ce sont nos corps qui vont instantanément bénéficier de l'œuvre du Christ. Jusqu'à maintenant, c'est notre esprit et notre âme, mais bientôt, nos corps de faiblesse, nos corps de chair, seront eux-mêmes transformés en vertu du pouvoir que le Seigneur a de s'assujettir même toutes choses. Et il a aussi racheté nos corps. Alors, le corps de ceux qui sont endormis en Jésus ressusciteront dans des corps immortels et glorieux, incorruptibles, et nous les vivants qui serons la génération qui sera vivante, parce qu'il y a une génération qui sera vivante au retour du Seigneur, eh bien, en un instant, en un clin d'œil, ces corps mortels seront changés en des corps immortels, semblables au corps du Christ ressuscité, et alors, nous nous en irons avec les morts ressuscités et tous les vivants que le Seigneur connaît et qu'il aura transmués, nous nous en irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais nous ne restons pas dans les airs, il nous conduit, on le rencontre dans les nuées, et il nous conduit à ces demeures aimables de la maison du Père, et c'est notre entrée, alors, dans la gloire. La gloire éternelle. Et c'est là que nous comparaissons tous devant le tribunal du Christ, non pas pour être jugés quant à nos âmes, puisque le jugement est tombé sur Jésus, mais pour être jugés quant à nos œuvres. C'est pourquoi ça ne suffit pas de dire on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la grâce, cela ne vient pas de nous, mais si c'est vraiment la grâce de Dieu, et si l'œuvre du Saint-Esprit a été opérée en nous, on est sauvé pour les œuvres. On est sauvé pour accomplir des bonnes œuvres, pour être sur la terre ce que les anges sont dans le ciel, afin que nous puissions faire ici-bas, que Dieu puisse faire ici-bas, sa volonté par nous. Comme il a pu faire sa volonté par le Fils unique, il voudrait continuer de faire sa volonté par ceux qui se disent sauvés. Et si vous vous dites sauvés, vous devez comprendre que ce que Dieu attend de vous, c'est que vous lui livriez votre corps, Romains chapitre 12, comme un sacrifice vivant. Il ne vous demande pas de mourir réellement, mais de reconnaître que dans la mort de Christ, votre vieil homme, votre ancienne manière de vivre a pris fin à la croix et que maintenant, votre vie, c'est celle de Christ. Et c'est tellement vrai cela que vous avez besoin de la foi actuelle pour croire cela, pour croire que vous êtes semblable à Christ aux yeux de Dieu. Tel il est lui, lisons-nous dans le chapitre 4 de la première épître de Jean, tel aussi nous sommes, le croyez-vous? Est-ce que le Seigneur peut vraiment disposer de vous? Alors, il faut que vous en ayez fini même jusqu'au souvenir de vos fautes. Vous les avez jugées. Vous vous êtes condamné. Vous avez donné raison à Dieu et c'est ça qui vous justifie. C'est vrai, ô Dieu, que je suis complètement corrompu et que quand on m'a dit que j'avais un bon fond, on m'a menti. Parce qu'une maman qui croit toujours que son enfant a un bon fond, elle n'y a encore rien vu. C'est après qu'on voit quel fond on peut avoir. Alors, voyez-vous, donner raison à la parole, c'est cela qui vous justifie. Ce qui nous justifie, c'est de donner raison à Dieu. Et alors, là, il faut vraiment la foi. Et c'est pourquoi il est dit que le juste vivra de foi. Vous êtes sauvés par la foi et pour la foi. La foi chez un croyant, elle est sans cesse en activité. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait. C'est pas « Oh, j'ai été sauvé il y a X années hein, ». Dieu soit béni. Mais depuis que vous avez reçu le Seigneur, qu'est-ce qui s'est produit en vous? Est-ce que le Seigneur a pu disposer de vous pour accomplir son œuvre? Parce que nous l'avons souligné, servir Dieu, c'est se laisser faire par lui et non pas vouloir faire des choses pour lui. Le Seigneur en a assez de nos initiatives. Il ne nous a pas demandé tout cela. Et bien souvent, nous nous crevons, nous nous fatiguons, soi-disant pour le Seigneur, alors qu'il ne nous a pas demandé cela. Mais ce qu'il voulait, c'est simplement que nous soyons à sa disposition et prêts à tout lâcher pour faire ce que lui veut. Et quand on fait sa volonté, on est secouru et on est renouvelé. Il nous donne toujours ce qu'il ordonne. Alors, que nous devenions des hommes de foi. Et vous aurez aussi le secours des anges. Vous avez vu ces enfants. C'est tellement merveilleux. J'étais très impressionné hier soir de penser que les anges ont vu aussi l'enfance de Jésus. Et l'ont suivi partout. Eh bien, dites-vous comme les anges ont suivi la vie de Jésus dans toutes ses phases. Eh bien, les anges suivent la vie de vos enfants. Et eux voient sans cesse la face du Père qui est dans les cieux. C'est quelque chose. Hein. Nous nous voyons, personne ne peut voir Dieu, mais les anges voient la face de Dieu. Et puis, c'est eux qui s'occupent de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, nous sommes environnés par ces anges. Et quelquefois, nous les pressentons. Je suis bien sûr que c'est grâce aux anges qu'il n'y a pas plus d'accidents parmi les enfants. Bébés même, qui pourraient tomber, qui peuvent avoir tant de risques. Mais le Seigneur est là. Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus, parce qu'on arrive à la fin, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Parce que quand vous retournerez dans vos milieux, peut-être, vous entendrez d'autres choses. On vous dira toute espèce de choses. On vous dira que le monde et l'évangile font des progrès, que c'est merveilleux, que tout va être transformé et que grâce à ces progrès, alors on pourra à un moment dire, « Seigneur, on a fait le boulot, tu peux venir. Regarde comme c'est beau la terre maintenant, tu peux venir. Ben, » regardez un petit peu autour de vous. C'est pas cela. Mais pourtant, c'est cela qui est prêché dans bien des églises. Et que le Seigneur ne peut pas revenir maintenant parce que ça va trop mal. Mais c'est justement quand ça va trop mal, à un moment donné, Dieu dit, ben c'est fini. L'heure, le jour, le mois, l'année sont arrêtés. Et le grand événement, nous le soulignons encore une fois, c'est que les vrais croyants qui sentent, et j'espère que vous commencez à le sentir, vous n'avez plus votre place sur la terre, ça devient impossible de vivre en chrétien authentiquement. Et ça ne doit pas vous étonner. Mais alors, qu'est-ce que vous deviez dire? Seigneur, donne-moi de te rester fidèle dans ce dernier quart d'heure. Même si je dois perdre quelque chose. Je veux te rester fidèle. Et vous mettez Dieu, mettez-le à l'épreuve. Il vous le demande, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne verse pas la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Mais voyez-vous, on avait tellement de moyens pour s'en tirer qu'on allait au Seigneur dans les extrémités. Alors quand on a épuisé tous les moyens du monde pour s'en sortir, tout d'un coup on se souvient, peut-être que tu devrais prier. Mais tu dois prier. Notre vie doit être une vie de prière, que nous appelons une vie ouverte à Dieu. C'est toujours branché avec le ciel. Et nous pouvons avoir la communication en direct avec le Seigneur. Pas à pas, quelle que soit la situation, il n'y a pas une situation que le Seigneur ne connaisse pas. Il a tous les secrets en main. Et il est bien en avance sur toutes les inventions des hommes. Il est bien en avance. On croit toujours, n'est-ce pas, que on a des choses nouvelles qui n'ont jamais été connues. Eh bien, quand on lit la parole, comme je vous le disais, on sait que l'anesthésie, la première, c'est Dieu qui l'a donnée. Et puis, on sait aussi que l'échographie existait aussi du temps d'Isaac. Quand Rebecca était perplexe au sujet de ce qui se passait dans son sein, ça bougeotait là-dedans, elle est allée consulter l'Éternel et l'échographie a révélé qu'il y en avait deux. Ésaü et Jacob. Vous voyez, mais plus vous entrerez dans toutes ces choses, revenez à la simplicité, prenez les choses comme elles sont, puis vous vous direz, mais oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ayez confiance à ce Dieu et faites-le entrer dans le quotidien. Qu'est-ce qui vous empoisonne au fond? C'est le quotidien. C'est le quotidien qui nous empoisonne le plus. Eh bien, c'est là que le Seigneur veut être pour vous aider dans tous les domaines. Et puis, quand vous lui avez dit, c'est au nom de Jésus que je te demande ça, parce que il est dans mon cœur, et puis je te laisse agir. Et bien souvent, vous savez, on aimerait qu'il nous réponde avant qu'on s'endorme. Il ne veut pas. Au lieu de, oh, moi je ne me coucherai pas, je l'ai dit quelquefois, une femme qui a fait beaucoup de cantiques et que j'ai eu le bonheur de connaître quand j'avais 14 ans, 13 ans, qui m'a même donné un bâton de chocolat à Vevey. Je me souviens encore de cela. C'était, oh le nom, celle qui a fait l'étoile, Adèle Pella. Hein? Alors Adèle Pella raconte que quelquefois elle était tellement fatiguée, elle a fait une merveilleuse pendant 50 ans à Genève, et alors elle ne voulait pas aller se coucher sans avoir prié. Puis elle risquait presque de tomber, alors elle se mettait contre la paroi, comme ça, puis elle priait, hein, pour que... Puis après, le Seigneur lui a montré, va coucher. Tu te priais. Aussi au lit, n'est-ce pas? Il ne faut pas forcer les choses. Mais il faut avoir une vie de prière. Et ce que j'ai remarqué, bien souvent, on s'endort. Puis le matin, on a la réponse. Et c'est là que j'aime beaucoup ce verset. Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. C'est merveilleux, ça. Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Mais donc, il me faut le croire. Bien, Seigneur, on n'est pas à demain, on est à aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi me charger du lendemain? Le lendemain, dit Jésus, sera en souci de... Mais vous voyez, on n'est pas très évangélique. Alors, il faut revenir à cette manière de faire. Je m'exhorte moi-même, parce que je suis plutôt d'une nature soucieuse. Alors, il faut que je m'abandonne et que je fasse confiance au Seigneur. Et que je commence à le louer. Alors, nous continuons notre lecture. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est ce dont avait peur l'apôtre Paul qui nous a donné le thème « Fiancé au Christ » parce qu'on apportait un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Car, verset 2, « Si la parole annoncée par les anges a eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Sodome, quand les anges sont venus pour détruire cette ville, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon nos propres désirs? Non. Selon sa volonté, il me donnera ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa volonté. Et c'est cela qui est tellement merveilleux. Notre force, elle vient pas de notre chair, elle vient du Seigneur. Et le renouvellement qu'il nous donne, eh bien, c'est un renouvellement qui vient du Seigneur. Il nous donne ce qui est nécessaire. Selon sa volonté. Verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Parce qu'il est question du monde à venir. Et ça vous concerne. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Vous voyez déjà, il est dit que Dieu s'est souvenu de Noé dans son arche. Il est dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham quand la ville de Sodome et de Gomorrhe devait être détruite. Il s'est souvenu de la prière d'Abraham et il a épargné Lot. Mais Abraham était descendu seulement jusqu'à 10. Il y a 10 justes. Est-ce que tu pardonnerais? Je pardonnerai. Il s'est arrêté là. Mais s'il était allé jusqu'à 1, eh bien, probablement que Sodome existerait encore. Mais il s'est arrêté à 10. Et vous le savez, je le dis en passant, pour que une séance dans la synagogue juive puisse commencer, il faut qu'il y ait 10 personnes. Tandis que Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Verset 5. Oh non, on a déjà vu le verset 5. Hein? Verset 8. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Est-ce que vous le croyez? Ça, c'est le Fils de l'homme. Hein? C'est du Seigneur qu'il est question là. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Vous êtes dans une difficulté. Le Seigneur la connaît. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise au Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, donc, c'est pour le Fils unique que Dieu a fait tout, mais c'est par le Fils unique qu'il a tout amené à l'existence, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ça vous concerne. Dieu voulait avoir beaucoup de fils, mais qu'il soit semblable à son Fils unique. Alors, pour cela, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. De qui ? De Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il a voulu être comme nous, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, quand quelquefois j'ai parlé d'un ennemi dans le camp, vous avez bien compris qui était cet ennemi. Ce n'est pas l'un de vous. Je n'ai visé personne. Et je n'ai pas pensé que quelqu'un parmi vous était un ennemi. Qui est l'ennemi? C'est Satan. C'est le diable. Mais évidemment, beaucoup n'y croient pas. Mais pourtant, c'est une réalité. Il y a des puissances mauvaises. Et plus vous êtes avec le Seigneur, plus vous vous rendez compte que dès que vous voulez avancer, le diable fait tout pour vous entraver. Mais il est vaincu. Et alors nous rappelons au Seigneur sa parole dans un moment difficile où justement nous avons la tentation de céder. Non, je ne céderai pas. Et puis, je m'appuie sur ta parole. Alors, il faut mettre à l'épreuve sa parole. Est-ce que vous avez peur de mettre à l'épreuve sa parole? Vous savez, au cours de tant d'années d'expérience, et surtout quand j'étais aumônier parmi les tuberculeux dans la ville de Lézin, en Suisse, au temps où on soignait la tuberculeuse sur les montagnes, il y avait beaucoup de ces personnes qui étaient là et qui sont mortes aussi. Eh bien, il y en a plusieurs qui... niait l'existence de Dieu. Alors j'entrais dans une chambre, pour Dieu, ça n'existe pas. Non. J'ai donné-moi la preuve qu'il n'existe pas. Alors on dit toutes sortes de choses, mais il ne peut pas me donner une preuve totale. Alors, mais vous pouvez me donner la preuve qu'il existe. Bien, je ne vais pas vous en donner une preuve, mais je vous dis, j'ai éprouvé Dieu. Dieu ne se prouve pas, mais il s'éprouve. Et j'ai éprouvé l'existence de Dieu dans ma vie, et je l'éprouve encore. Puis il me dit, vous croyez que je pourrais moi aussi l'éprouver? Je dis, absolument. Dans ton état, demande à Dieu, ô Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Tu veux le faire? Alors il dit, oui, ben, je le ferai. Alors, je l'ai laissé, mais quand je suis sorti, je me suis dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Quand tu le reverras demain ou après-demain, et s'il me dit qu'il ne s'est rien passé, quelle sera ton attitude? Mais vous voyez comment on est craintif, hein, parce qu'on a affirmé quelque chose. Quand je suis retourné, il était rayonnant, et bien il a répondu. Elle est devenue croyante. Puis après, le médecin lui a permis d'aller à Genève pour revoir ses amis, etc. Puis il avait un peu peur. Il m'a dit, vous savez, quand je suis avec mes amis, on allait ceci, on allait faire cela. Et puis, j'ai un peu peur, hein. Quand il est revenu de Genève, parce que j'ai dit, va en paix, hein, le Seigneur est avec toi. Quand il est revenu, il me dit, oui, monsieur Racine, c'est incroyable. Je n'avais plus goût à toutes ces choses. Et je ne suis pas allé à ces choses-là. Il avait une vie transformée, une nature qui ne prenait plus goût à ce qui le nourrissait avant. Je n'avais plus goût à toutes ces choses. et je ne suis pas allé à ces choses-là. Il avait une vie transformée, une nature qui ne prenait plus goût à ce qui le nourrissait avant. On voit des choses merveilleuses. Mais prenons un autre cas dont je me souviens bien. J'avais dit à peu près les mêmes vérités. Et puis il a dit, oh ben on verra. Quand je suis revenu, il était toujours dans le même état. J'ai dit, tu as fait cette prière? Non. Pourquoi? Il avait peur qu'il lui réponde. C'est qu'au fond, il ne voulait pas que Dieu existe. Parce que s'il n'existe pas, on fait ce qu'on veut. Et c'est embêtant s'il existe. C'est pour ça que c'est tout à fait vrai ce qui a été dit. Nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas. Nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas. C'est Saint Augustin qui a dit ça. Victor Hugo disait, nier Dieu, c'est un aveuglement et une folie. Et l'Écriture vous dit, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut être insensé pour nier l'existence de Dieu. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable est vaincu, et nous devons le savoir, et nous devons imiter le Seigneur, voir comment lui, par la parole, a été délivré de la puissance du diable et comment il a délivré les autres âmes. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Eh bien, voilà, ce divin fiancé, fils éternel de Dieu, s'est abaissé, s'est anéanti. Et hier, en particulier, nous avons vu comment, à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament, on a attendu cet événement, on a attendu cette promesse faite en Éden que la semence, la postérité de la femme, anéantirait la puissance du serpent. Dans le jardin d'Éden, eh bien, il y a eu la faute, mais Ève a entendu cette promesse. Et une fois hors d'Éden, ils ont espéré que l'enfant allait naître, et c'était Caïn. Puis il y a eu Abel, qui a été tué par Caïn. Il y a eu Seth. Ève a pensé que c'était peut-être lui, et ce n'était pas cela. Puis après, il y a eu les patriarches. Les promesses étaient renouvelées, mais ce n'est pas au temps d'Abraham ou des patriarches que l'enfant est né, et nous sommes arrivés au temps des rois. C'était pas au temps des rois, c'était pas aussi au temps des prophètes, comme nous l'avons lu, mais ils cherchaient en quelle sorte de temps cet enfant dont parlait Esaïe naîtrait, et nous avons vu alors, dans Daniel, cette révélation merveilleuse faite par Gabriel, puis en son temps, alors, tout s'est accompli et le Seigneur est venu, mais il a été rejeté comme cela avait été annoncé. Et Israël, n'ayant pas voulu du Seigneur, eh bien, le peuple a été mis à l'écart, mais pas pour toujours, comme le dit le chapitre 11 des Romains, pour un temps, et qu'est-ce qui est apparu? L'Église, dont un peuple nouveau, mais pas un peuple terrestre, croyez-le bien. Et c'est là l'erreur ecclésiale. C'est que l'Église a voulu devenir une puissance terrestre. Et ils ont copié sur le monde du temps des Romains. Et toute la hiérarchie, toutes ces choses-là, viennent de ce qu'on a copié sur les puissances, sur les royaumes de la terre. Or, Jésus avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. L'Église de Jésus-Christ est un royaume céleste. Et toutes nos espérances sont des espérances célestes. C'est pourquoi, pour Israël, qui était un peuple terrestre, les bénédictions qu'ils attendaient étaient des bénédictions terrestres. Mais nous, nous n'avons pas à nous attendre à des bénédictions terrestres. Nous sommes les disciples du Christ. Et qu'est-ce que le Christ a eu quand il est venu? Un trône? Non, il a eu une croix. De sorte que vous ne devez pas vous étonner, si vous êtes devenu disciple du Christ, d'avoir une croix. C'est-à-dire de connaître aussi la souffrance. Mais si nous souffrons avec lui, dans ce monde où il a été renié, eh bien nous savons que nous régnerons aussi avec lui. Mais il faut absolument que vous fassiez votre compte. Si vous vous donnez au Seigneur, vous connaîtrez le rejet aussi. Dans ce monde, vous ne serez pas compris, et même par des gens religieux. Alors, quand j'ai compris pour moi-même que la souffrance était dans le programme, c'était une délivrance. Alors on n'est plus étonné. Et comme je disais l'autre jour, quand une épreuve nous arrive, eh bien, on dit, eh bien Seigneur, tu dis que c'est nécessaire, je te fais confiance, mais je sais que tu es un bon père. Et voyez-vous, c'est cela qui touche le monde. C'est de voir qu'il n'y a pas de révolte dans nos cœurs, qu'on ne remet pas en doute la justice de Dieu, sa sainteté, son amour, sa puissance. Mais on sait qu'il nous éprouve pour faire grandir notre foi. Et voyez-vous, la foi doit devenir visible au monde. Ce n'est pas des paroles, mais c'est une vie. Et la vie de Jésus, eh bien, c'était cette vie qu'il avait de son Père. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, il le faisait et il le disait dans une communion parfaite avec le Père. Mais ce qui arrive maintenant pour l'Église, c'est ce qui est arrivé pour Israël. Maintenant, nous sommes à la fin du temps de l'Église. L'Église n'a pas persévéré dans la vérité. L'Église a détaché la ceinture. Et maintenant, comme on vous l'a lu, ce sont même des gens d'église qui vous annoncent un autre Jésus. Eh bien, l'heure est venue pour nous de prendre position et de savoir que nous allons vivre ce dernier quart d'heure, parce que vous savez, les événements peuvent se précipiter très rapidement. Mais nous n'attendons pas la colère, nous attendons la délivrance. Et alors, quand le Seigneur nous aura pris auprès de lui, quand il aura donné les récompenses à ceux qui lui auront été fidèles et qui auront voulu marcher dans ses traces, alors il reviendra en gloire, mais est-ce qu'il reviendra seul? Il reviendra avec son épouse. Les noces de l'agneau auront eu lieu, et c'est pour la première fois que le monde verra, quand le monde doit voir Jésus, mais ils le verront en gloire, revenant du ciel, avec tous ses élus. La terre et le corps parfaitement unis. l'unité que l'on cherche à créer dans l'œcuménisme, c'est pas une unité qui ira bien loin, c'est des compromissions, c'est des abandons de certaines vérités qui permettent qu'on se mette plus ou moins d'accord par des concessions, mais il n'y a pas d'unité réelle. L'unité chrétienne n'est pas à faire, elle est faite en Jésus. Comprenez-le bien. Elle existe en Jésus. On ne crée pas l'unité, elle vient de la vie. De la vie de Jésus. Et l'unité n'est pas nécessairement l'uniformité, mais c'est une unité de vie. Et si nous avons la même vie, eh bien nous sommes aussi unis. Et nous devons montrer cette unité au monde, qui est une unité d'amour. Si vous vous aimez, disait Jésus, les uns les autres, eh bien, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Alors, l'amour de Dieu, il a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez une question à poser? Je vois que la pluie va venir.
Au début, quand vous parlez, les enfants, les anges qui sont autour d'eux, on parle presque exclusivement toujours des enfants. Et au niveau des adultes...
Au niveau des adultes, vous voyez que quand Jésus est devenu adulte, ils étaient là. Parce qu'ils l'ont servi immédiatement. Après le triomphe de la tentation. Nous sommes toujours protégés par les anges. Ils sont les serviteurs de ceux qui doivent hériter du salut.
Dans le psaume 84, hein, vous prédit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger.
Oui, le psaume 34.
Oui. Alors, ça nous donne ça aussi de la vie. Parce que présentement, il sort beaucoup de livres hein, sur les anges.
Ah oui, je sais. Comme si la Bible ne connaissait pas la vérité au sujet des anges. Alors la plupart de ces gens qui écrivent maintenant, ben, c'est parce qu'il y a un besoin religieux. Alors voilà. Et c'est toujours la séduction. Alors ils prennent des titres qui font bien. Mais on va lire juste ce dernier verset sur les noces de l'agneau, au chapitre 19 de l'Apocalypse. Verset 6. Jouis comme une voix d'une foule nombreuse et comme une voix de grandes eaux, comme une voix de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et sa femme s'est préparée, c'est l'Église. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Vous voyez, c'est pas la robe de justice de la conversion, ça, qui nous est donnée, mais c'est une robe que nous tissons au cours de notre vie par l'activité de la foi qui produit des œuvres. Alors, vous voyez, sa femme s'est préparée. C'est ça les fiançailles. C'est la préparation en vue du jour des noces. Et cette robe de fin lin éclatante et pure, ce sont les œuvres justes des saints, les justices des saints, ce qui a été fait pour le Seigneur. Non pas pour nous-mêmes, pour qu'on parle de nous, pour qu'on nous mette les premiers sur la liste de ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Vous voyez, on recherche toujours la gloire, pour nous, la gloire des hommes. Non, tout cela, ça a été fait pour le Seigneur. Et voyez-vous, faites toutes choses de cœur comme pour le Seigneur. Et même un verre d'eau froide, quand il est donné avec la pensée que c'est au Seigneur que nous le donnons, il ne perdra pas sa récompense. Et verset 9, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Les véritables paroles de Dieu. Je tombais devant ses pieds pour lui rendre hommage, et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage. Donc, les anges sont nos compagnons, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir le témoignage de Jésus. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Quelqu'un a une autre question?
Lorsque l'Église est enlevée, oui, le Saint-Esprit est le cœur de la terre, oui, est-il encore possible que des gens qui ne sont pas juifs puissent être sauvés?
Mais ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile auront la possibilité de l'entendre par les témoins juifs qui vont se convertir. Il y aura bientôt la relève, hein, parce que maintenant, ce qui sort du christianisme, hein, ben, ce n'est pas accrédité, parce que vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis d'un peu tous, eh bien, les chrétiens, vis-à-vis des juifs aussi, on a commis toutes sortes d'iniquités au nom du Seigneur. On a commis des iniquités au nom du Seigneur. Alors, il faut des hommes nouveaux pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu. Voilà. Je t'aime, mais que dire? Eh bien, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il fallait que j'aille au jour le jour. Et alors, c'est ce matin même que j'ai reçu, sans le vouloir, une conviction, comme si le Seigneur me parlait, vous êtes beaucoup plus loin du mariage, des fiançailles, que du mariage. Est-ce que ça peut correspondre à un texte biblique, ça? Le jour du salut est plus près de vous que le jour où vous avez cru. Chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Et c'était très fort ce matin que nous étions beaucoup plus près du moment des noces que de celui de nos fiançailles, c'est-à-dire du jour où nous avons cru. Et ça m'a frappé, parce que je ne pensais pas du tout à ça. Nous sommes proches des noces de l'agneau, qui peuvent se faire très rapidement, quand le Seigneur viendra. Et il désire avoir son épouse auprès de lui. Alors, après les fiançailles, il y a donc les noces. Et ma dernière parole, ce sera dans l'épître de Jude, pour clore notre sujet. verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et ça me frappe. On vit dans des jours très misérables, spirituellement parlant. Et on sent cette misère. Et le Seigneur m'a dit aussi autre chose par l'un d'entre vous, qui m'a fait remarquer aujourd'hui que quand une famille chrétienne avec des enfants voudrait aller en vacances, c'est très difficile de trouver un endroit qui corresponde pour que les enfants aient là un bon exemple, et que ce soit aussi à un prix abordable. Et ça m'a beaucoup frappé, ce que tu m'as dit, mon cher ami. La difficulté pour une famille de trouver un lieu dans ce monde pour donner des vacances aux leurs. Et peut-être que ça m'a remis en question au sujet de l'avenir. Mais cet avenir, il est dans le Seigneur. Alors, nous voulons en faire un sujet de prière et aller au jour le jour avec les moyens que le Seigneur nous donne. Et cette disponibilité qu'a eu Lorenzo pour venir nous aider dans un moment où nous en avions besoin. Eh bien, moi aussi, je désire, et ma femme, je sais que elle partage les mêmes sentiments. Nous désirons être toujours disponibles pour le Seigneur, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous. Alors ça, c'est ce que le Seigneur vous demande. Vous avez entendu parler de l'amour, de cet amour qui se trouve dans le sein du Père de toute éternité. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dans un tel monde, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, c'est la parole du Seigneur pour vous, en attendant la miséricorde, parce que dans ce temps misérable, nous attendons la miséricorde. Et quand le Seigneur voit que nous sommes si misérables, que nous n'avons bientôt plus de place sur la terre pour vivre en chrétien, eh bien sa miséricorde va se manifester en nous prenant auprès de lui pour la vie éternelle. Alors, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souliée par la chair. Et ces dernières paroles, or, à celui, allez-vous le croire, qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Voulez-vous croire cela, que le Seigneur peut vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Si vous avez appris à connaître votre fiancé et les qualités de votre fiancé, de Jésus, de ce qu'il a été comme homme sur la terre, de ses perfections, vous avez maintenant à croire que cela vous concerne, que vous pouvez être irrépréhensible et dans la dégresse. Ne regardez plus à ce que vous, à vous-même, à ce que vous êtes, mais soyez dans la dégresse en pensant que tout ce qu'a été Jésus, il l'a été pour vous et que c'est lui qui est votre vie. Il est mort avec votre vie, finissez-en, avec votre passé, avec vos expériences décevantes, avec vos chutes. Ne vous attendez pas de vous améliorer. Chaque fois que vous voyez et que vous êtes déçu, détournez les yeux de vous-même et puis fixez-les sur celui qui est vraiment votre vie et croyez que Dieu vous voit dans ses perfections de son Fils et qu'il vous voit irrépréhensible. Alors, soyez dans l'allégresse. Et en terminant, donnez gloire à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, qu'à lui soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Dieu notre Père, nous te remettons les heures à venir, les journées que nous avons encore à passer ici-bas, si tu nous prêtes vie, et donne-nous de croire que nous pouvons, par ta puissance, paraître à tout instant devant toi, irrépréhensible et dans l'allégresse. Louange à toi, Seigneur Jésus.